d'abord la situation de marché au lendemain de ce week-end de tensions renouvelées entre l'Iran et Israël, avec une attaque même inédite de drones, de missiles iraniens contre Israël. Et John Plassard qui est avec nous en visioconférence, spécialiste en investissement de la banque Mirabeau, avec nous donc en visio, je le disais, John. Que dire de la situation? Évidemment, quand on regarde et quand on écoute ce que nous disent les indicateurs de marché, les investisseurs n'ont pas envie de faire de l'embrasement généralisé au Moyen-Orient un scénario central aujourd'hui.
Oui, tout à fait. Je pense que, Grégoire, il faut regarder la réaction des marchés, non pas aujourd'hui, mais ce qui s'est passé la semaine passée. Vous l'avez dit, on était dans une situation où je pense que, sans être un géopoliticien, c'était l'attaque la plus prévisible, puisqu'elle avait été annoncée par le gouvernement israélien, mais aussi par les services de renseignement américains et britanniques, l'attaque la plus attendue, je dirais, de toute l'histoire entre dans la région. Alors ça, c'est la première des choses. Donc on s'y attendait, et les mouvements de marché très importants dont vous avez parlé, notamment sur le prix du baril de pétrole, ont eu lieu jusqu'à vendredi après-midi, où le baril a fortement progressé avant de baisser sur les attentes de cette attaque. La deuxième des choses, c'est que ce qu'on peut dire aussi et ce qu'on relève ici, c'est que la tendance sur l'or ne date pas d'hier, et je dirais que ça a mis un nouvel échiquier dans la composition de tous les éléments qui poussent à un rachat pour l'or. Et ce qui est très intéressant de noter ici, c'est que l'or a progressé et progresse aussi ce matin malgré la hausse du dollar, dollar considéré aussi comme une valeur refuge. Et juste une chose, il faut le rappeler, c'est que de nouveau, on entendait plusieurs économistes affirmer que c'était la fin du dollar ces dernières semaines. Et on voit qu'évidemment, dès qu'il y a des tensions géopolitiques, eh bien, le dollar continue à être une valeur refuge, tout comme le franc suisse. L'autre chose qui est aussi très intéressante de noter, c'est les crypto-devises, les crypto-monnaies et le bitcoin. Alors, pas ce matin, mais vendredi aussi, comme les autres. Et on a vu qu'il s'est effondré largement, en perdant près de 10% avant de rebondir quelque peu. Et on a vu que le bitcoin, eh bien, fait office maintenant, lorsqu'on y regarde de plus près, vraiment d'un actif risqué. Alors, vous allez me dire, c'est évident, mais il évolue, je dirais, vraiment comme un actif risqué, ce qui n'était pas le cas avant. On ne savait pas vraiment où le catégoriser. Eh bien, c'est un
actif risqué. Certains parlaient du bitcoin comme de l'or numérique, même, à un moment, John.
Exact, tout à fait. On voit que c'est pas le cas. Hein. Dès qu'il y a certaines tensions entre guillemets, eh bien les gens sortent des crypto-devises avant d'y revenir, hein, comme on l'a vu ce matin. Mais il y a un lien, donc il faut pas oublier, parce qu'effectivement c'est difficile de mettre ça en parallèle avec l'or. Et puis chose assez intéressante, et vous l'avez dit, Grégoire, ça faisait depuis novembre 2023 que le VIX, c'est-à-dire la volatilité, ne bougeait pas du tout, et enfin elle est sortie de sa torpeur. Il est sorti de sa torpeur en arrivant sur les 17. Alors, il sera alimenté ou pas ces prochains jours par les tensions géopolitiques, mais aussi ce qui va se passer sur les marchés, puisque évidemment, on a d'un côté le début de la publication des résultats des entreprises, et de l'autre côté, la réunion de la Fed la semaine prochaine. Donc, la volatilité potentiellement pourrait trouver une souche dans ces trois éléments.
Oui, effectivement. Alors, au-delà du facteur géopolitique, hein, qui peut toujours à la marge avoir un impact sur les prix des grandes classes d'actifs, si on regarde les fondamentaux de l'économie américaine, la réunion de la Fed, c'est 31 avril, 1er mai. La décision de la Fed sera rendue le 1er mai, John. Est-ce que l'économie américaine peut permettre à la Réserve fédérale américaine, dans sa communication du 1er mai, de continuer à signaler des baisses de taux à un certain point devant nous en 2024?
Alors, c'est une question extrêmement compliquée, et normalement, elle ne devrait pas l'être. Alors, pourquoi? Parce que normalement, évidemment, les banques centrales ont une vision, enfin, on l'espère, à 6 mois, 12 mois, etc. Donc, savent ce qu'elles vont faire. Et là, apparemment, c'est un nouveau paradigme, parce qu'ils ne veulent pas répéter les erreurs monumentales qu'elles ont faites en 2022 avec l'inflation transitoire. Donc, elles ne veulent pas faire les mêmes erreurs de l'autre côté. Donc, on espère qu'on en aura plus. Mais si on regarde les messages, c'est ça qui est intéressant. intéressant. Si on regarde les messages des membres de la Fed, ce week-end, par exemple, vous avez le président de Minneapolis, Kashkari, qui a dit qu'il ne s'attendait plus à de baisse de taux. Et de l'autre côté, vous avez le président de la Fed de New York, Williams, qui lui dit qu'il s'attend à une première baisse en juin. Donc on voit même là, au travers de la communication des membres de la Fed, qu'on est complètement différent. On regarde aussi qu'on a une adaptation folle, et on en avait déjà parlé ensemble, Grégoire, du consensus aux attentes. On se souvient d'UBS en début d'année qui disait 11 baisses de taux, et là je crois qu'ils en sont plus qu'à 2, donc il y a eu quand même une révision extraordinaire. Et puis ceux qui sont, je crois que c'est Bank of America ou Citi, vous m'excuserez, qui parient toujours sur 5 baisses de 25 points de base, mais évidemment ils vont baisser les estimations. Alors ce qui est intéressant de noter, c'est évidemment la fenêtre d'ouverture des baisses, puisque faut pas oublier qu'on est dans une année électorale. Alors tout le monde, certains économistes vont dire que oui, il n'y a pas de rapport historiquement entre l'année électorale et les banquiers centraux, mais on imagine quand même qu'il y a une certaine pression, et que évidemment baisser les taux en pleine élection, ça va être un peu compliqué. Donc ce sera ou avant l'été ou durant cet hiver, après novembre. Donc c'est compliqué, c'est très compliqué à ce niveau-là. Et si on se fie fondamentalement aux data, parce que c'est ce qu'ils ont dit, la data dépendance, eh bien on n'oublie pas de dire que les derniers chiffres de mars ont rebondi au niveau de l'inflation aux États-Unis, le CPI, bon, on s'y attendait en début d'année, mais on rebondit plus fortement que le consensus. Et puisqu'on parlait avant de ce qui est en train de se passer en Iran et dans le détroit d'Hormuz, eh bien potentiellement on peut avoir une inflation sur les prix des transports que regarde de très près la Fed et la Banque Centrale Européenne, et évidemment le prix de l'énergie. Et si le prix de l'énergie devait continuer à progresser, vous savez, l'effet secondaire de la hausse du prix de l'énergie qui, en fait, se transmet à plusieurs pans de l'économie, dont l'industrie chimique, par exemple, eh bien, on est dans une situation, effectivement, où c'est compliqué. C'est compliqué de trouver cette porte ou une fenêtre d'ouverture.
Oui, fenêtre de tir serrée, effectivement, pour la Réserve fédérale américaine, qui communiquera le 1er mai prochain. On aura encore sans doute quelques discours de banquiers centraux américains d'ici là, dans les prochains jours. John, si on en vient aux banques commerciales, cette fois, avec les premiers résultats publiés en fin de semaine dernière, on a à l'instant les résultats de Goldman Sachs qui sont en train de tomber, mais les investisseurs ont déjà pris connaissance vendredi des résultats de JP Morgan, Citigroup, Wells Fargo. Citi, en termes de réaction de marché, a été la banque dont les résultats ont été le plus salués, on va dire, vendredi. John, à l'inverse, JP Morgan, plus grosse banque américaine, a vu son cours de bourse baisser de plus de 6% vendredi après la publication de ses résultats. Quels enseignements est-ce qu'on peut retirer de cette première salve de publication bancaire ?
Alors, je dirais une chose. La première chose, elle est technique. C'est-à-dire que JP Morgan, l'action de JP Morgan était au quasi plus haut historique. Donc, si vous décevez dans les guidance, dans les prévisions, eh bien, la sanction est très élevée. Et ça, c'est important, je pense, pour aussi, alors même si c'est pas du tout le même secteur, mais pour le secteur de la technologie. Et j'imagine que si certaines entreprises, notamment dans l'intelligence artificielle, déçoivent quelque peu sur leur prévision, on pourrait avoir des sanctions très fortes. Alors ça, c'est le premier enseignement technique. Le deuxième enseignement, ce qu'il y a, c'est que le message de ces trois banques vendredi, et je connais pas le message de Goldman, mais ce sera certainement la même chose, de dire que l'économie américaine continue d'être forte. Donc ça, c'est important, puisqu'on va avoir la réunion de la Fed, on va avoir les chiffres du premier trimestre qui vont être publiés ces prochaines semaines, et on devrait être au-delà de 2%, donc ça, c'est important. Mais ce qu'elles notent, ces entreprises, ces trois banques que vous avez citées, c'est que les taux d'intérêt commencent à peser sur leurs revenus. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que historiquement, lorsque les taux d'intérêt montaient, on disait que ça faisait monter les revenus nets d'intérêt, qui étaient boostés par les taux d'intérêt. Mais d'un autre côté, eh bien, comme les taux d'intérêt commencent à être conservés, d'être très élevés, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que vous avez de plus en plus de consommateurs et d'entreprises qui hésitent à emprunter, et ça, c'est des revenus moindres pour les entreprises. Et ça, c'est un message très important. Pourquoi ? Parce qu'il n'était pas là par le passé, parce qu'on disait que, notamment à travers l'argent qu'avaient mis de côté les Américains durant le Covid et qu'ils n'avaient pas encore totalement utilisé, eh bien, cette consommation était toujours très forte. Mais là, on commence à voir les prémices des impacts négatifs des hausses de taux. Et il faut rappeler quand même une chose, c'est qu'on a eu des hausses de taux extrêmement rapides, hein, beaucoup plus que ces derniers cycles économiques.
Bon. Goldman Sachs qui publie aujourd'hui dans le sillage des grosses banques américaines vendredi, et puis la montée en puissance de la saison de publication tout au long des prochains jours et des prochaines semaines. On suivra ça évidemment avec attention. Merci beaucoup John Plassard avec nous en visioconférence pour ce premier rendez-vous de la semaine de Smart Bourse le lundi à la mi-journée. John qui est spécialiste en investissement chez Mirabeau.